J'ai décidé de parler sur les agricultures franciliennes. L'agriculture francilienne que je suis en effet depuis pas mal de temps. J'ai commencé une thèse, ou j'ai fini une thèse bien sûr, sur les exploitations betteravières, donc plus large que l'Île-de-France, puisque j'avais travaillé à l'échelle de la France. Et puis ces dernières années, enfin depuis déjà une bonne dizaine d'années, j'ai accompagné un petit peu la mue de ces agricultures franciliennes qui deviennent de plus en plus périurbaines, si je puis dire. Et c'est ce qui m'intéresse un petit peu aujourd'hui, de voir comment ces agricultures que je qualifie de périurbaines, puisqu'elles sont, on va le voir, dans la mouvance en totalité de l'agglomération parisienne, connaissent à la fois des mouvements que j'ai appelés de résistance, parce qu'on est clairement dans une grande agriculture qui se maintient bien et qui n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt à bouger. Et puis de l'autre côté, on est malgré tout dans des éléments d'agriculture qui connaissent des évolutions nombreuses liées notamment aux nouvelles demandes urbaines. Donc première chose, je me suis amusée à faire un petit medley, si je puis dire, des citations sur ces agricultures franciliennes dans les 50 dernières années. J'ai pris le livre de Pierre Georges et de Rondé, livre très classique qui évoque ces agricultures. J'ai repris le livre de Beaujeu Garnier de 77, également sur l'Île-de-France, et puis l'Atlas rural et Île-de-France qui est paru en 2004. Ce qui m'a frappé, c'est que ces trois ouvrages, chacun de leur manière, évoquent ce que l'on pourrait qualifier d'une agriculture particulièrement performante, efficace. Je crois que vous trouverez le vocabulaire féconde, efficace, prospère, puissance, productivité. On voit d'ailleurs bien le changement des termes qui correspond à des périodes, en quelque sorte, de la géographie. Deuxième aspect, des éléments qui marquent la double spécialisation, et on va y revenir. Donc je pense que vous l'avez, double spécialisation dans le premier texte, verger et céréales dans le deuxième texte. Le style de Beaujeu Garnier, je trouve, est très intéressant. C'est vrai qu'on n'écrirait plus les choses comme cela, mais les vergers qui ourlent les corniches, c'est vrai que c'est une époque de la géographie, mais je crois que c'est tout à fait intéressant. Et puis, le troisième texte, donc celui de l'Atlas rural et agricole d'Île-de-France, qui évoque de la même manière à la fois les grandes cultures et les cultures spécialisées. Et enfin, troisième élément que je retiendrai, puisqu'ils vont servir de trame à mon exposé, c'est que ces trois caractérisations de l'agriculture dans les 60 dernières années évoquent tous déjà le dialogue avec la ville. Dialogue qui, en 59, on n'apparaissait peut-être pas centrale, mais il est clair que plus on va vers la période contemporaine, plus ce dialogue avec la ville apparaît comme une nécessité, et on va voir que ce dialogue avec la ville prend différentes formes. Donc ce qui m'a intéressé dans ces éléments, c'est à la fois bien sûr ces éléments de structure qui courent sur le temps court, mais j'ai envie de dire qui courent également sur le temps long. J'ai cité là, dans l'ordre de parution, les grandes thèses qui ont évoqué cette agriculture francilienne. La thèse de Michel Fliponneau en 56 sur les agricultures de banlieue, donc on est vraiment sur les agricultures en lien avec la ville. La thèse de Roger Brunet, dont on vient de parler tout de suite, de 1960. Celle de Jean-Paul Charvet en 85 sur les greniers du monde. Et puis, j'ai également cité trois thèses d'historiens qui ont écrit et qui apportent des choses essentielles sur cette agriculture francilienne, que ce soit Jacquard, M. Moristeau ici présent, et Florent Quellier, dont vous avez parlé tout à l'heure de son HDR. Bon, de manière différente, bien sûr, mais c'est vrai que les textes de Quellier, notamment sur les agricultures spécialisées, sont tout à fait intéressantes et ont évoqué très largement ces agricultures franciliennes. Donc, ces trois éléments que je viens de citer, dualité, performance et productivité, dialogue complexe avec l'urbanisation, vont servir un petit peu de trame à mon exposé. Bon, évidemment, on pourrait le lire, mais je ne vais pas remonter là-dessus sur les formes topographiques. On est là dans une cuvette avec une accumulation, en quelque sorte, d'éléments physiques qui expliquent la puissance de cette agriculture. L'histoire, avec la centralisation française sur la capitale et puis la politique agricole commune. Et je voudrais surtout travailler avec vous sur la capacité d'adaptation de cette agriculture. Montrer à la fois sur le temps long, mais je ne remonterai pas très loin, hein, je remonterai aux années 50, comment, en quelque sorte, cette agriculture s'est véritablement adaptée depuis les années 50, et comment lire la nouvelle phase d'adaptation qu'elle connaît aujourd'hui. Phase d'adaptation qui n'est pas sans lui poser problème. Il est clair que l'urbanisation déstabilise le foncier, mais parallèlement, en Île-de-France comme ailleurs, les liens vivriers redeviennent un enjeu avec un programme régional alimentaire qui est la déclinaison du programme régional, du programme national, un programme d'agriculture régionale et puis le fameux schéma directeur de l'Île-de-France de 2013 qui pour la première fois cite l'enjeu alimentaire parmi ces quatre enjeux fondamentaux. Jusqu'alors, on n'avait que des enjeux d'urbanisme, de transport, d'économie au sens large. Mais cette fois-ci, on a introduit l'enjeu alimentaire, ce qui montre bien ces changements. Donc ce que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, c'est à la fois comment cette agriculture telle que je viens de la présenter à grands traits a connu donc des évolutions depuis 50 ans, comment ces évolutions sont représentatives de toute l'agriculture française, donc ça j'irai assez vite, mais je pense que l'adaptation de l'agriculture francilienne est un élément important parce qu'elle s'enracine véritablement dans la puissance traditionnelle de cette agriculture francilienne. Et puis ce qui m'intéressera plus longuement, c'est de voir comment cette agriculture aujourd'hui évolue, depuis notamment les années 90, ce qui marque partout une brisure hein, au niveau agricole, mais qui, il est clair, en Île-de-France, ont une brisure très liée à la présence de l'agglomération. Donc je travaillerai surtout sur les recensements de l'agriculture. C'est un exercice que j'aime bien. Je trouve qu'on devrait revenir plus souvent sur les recensements de l'agriculture, même si ils ont un certain nombre de défauts, hein, j'en ai noté ici. C'est vrai que la superficie agricole utilisée, on la connaît pas vraiment puisque les exploitations agricoles sont recensées au siège d'exploitation. Donc à la limite, s'ils ont des terres hors de l'Île-de-France, elles ne sont pas connues dans le recensement. Et cela existe très très fortement en Île-de-France avec des exploitations qui ont choisi de s'éclater sur le Vexin normand ou même dans le Val-de-Loire. Hein. Donc on a véritablement des éclatements des parcellaires qui sont très importants. Donc on n'a pas une vision complète. Première chose tout de même, on voit que la baisse... nonobstant ces précisions, de la superficie agricole utilisée n'a été que de 2,5% de 2000 à 2010. C'est à peu près le chiffre de la France entière. On est sur moins 2,6. Donc ça nous donne tout de suite des idées, malgré tout, sur une résistance de cette agriculture. Même chose au niveau des exploitations, avec une chute de 23% des exploitations en Île-de-France. Le chiffre global de la France est de 26%. Donc là encore, on voit nettement ce que j'appelle résistance hein, de cette agriculture en dépit de l'urbanisation. Des difficultés propres, je pense, à l'Île-de-France pour travailler notamment sur le recensement sur les RGA. C'est le secret statistique qui est de plus en plus important, d'autant que nous avons des communes qui ont de moins en moins d'exploitations. Donc ayant de moins en moins d'exploitations, c'est presque impossible. Je vous donne là une image du nombre d'exploitations par commune. Bon, ce qui est en rouge, c'est là où il y en a de plus 11, mais vous voyez le nombre de communes qui n'ont plus que une ou deux exploitations, voire trois. Et il est véritablement très difficile de travailler dans ce cadre-là, puisque le secret statistique est de plus en plus fort. Dernière chose que j'évoquerai là-dessus, c'est l'utilisation dans le dernier recensement de la classification par produit brut standard, qui est devenue la plus importante, donc qui donne véritablement une lecture économique de cette agriculture. Bon, je la trouve tout à fait intéressante, mais d'un certain point de vue, on a supprimé dans cette nouvelle lecture tout ce qui était différenciation entre exploitation professionnelle et non professionnelle, alors qu'à l'évidence, avec la montée de ces nouvelles agricultures, on a des formes d'exploitation non professionnelle très fortes. Donc c'est un élément qui nous permet pas d'analyser totalement cette nouvelle agriculture. Et puis, deuxième chose, dans le PBS, on a très peu, enfin, on calcule de manière incomplète, où on intègre de manière incomplète tout ce qui fait les ventes directes, les activités d'achat-revente, tout ce qui est justement cette nouvelle agriculture qui est en train de naître. Donc j'ai envie de dire que le RGA nous permet de voir des choses, mais d'une autre manière, il ne nous permet peut-être pas d'aller aussi loin comme qu'on le souhaiterait. Donc premier élément que je voulais voir, c'était cette idée de performance et d'efficacité de cette agriculture, en sachant qu'elle est duale, et je vais y revenir. Donc là, une carte très classique, hein, établie à partir du recensement général de l'agriculture sur les OTEX. Je pense que l'on voit encore, comme je le disais tout à l'heure, la carte le montrait, cette Île-de-France convertie pour une grande part à la céréaliculture ou à la grande culture, qui englobe pratiquement tous les départements de grande couronne. Et puis, on voit simplement quelques îlots autour des départements de petite couronne, îlots de fleurs, de légumes, champignons, donc ce qui faisait, je vais y revenir tout à l'heure, les fameuses ceintures forestières de l'Île-de-France. Autre image très forte, c'est bien sûr la quasi-absence d'élevage, la quasi-absence de surface toujours en herbe ou de culture fourragère. Et là, on a véritablement un terme de l'évolution entamé depuis les années 50. On va y revenir rapidement tout à l'heure. Donc, on a aujourd'hui des systèmes céréaliers dominants. Je vous en ai mis ici un exemple. Je suis en Seine-et-Marne, exploitation classique de 200 à 300 hectares. Deux actifs, hein. Je pense que c'est véritablement un petit peu une exploitation type que l'on aurait. On voit un système donc céréalier avec un petit peu de protéagineux et d'oléagineux, des rotations relativement simples, mais sur mécanisation, de très forts rendements. Vous les voyez peut-être pas ici, mais c'est quand même ce qui caractérise aussi cette puissance de l'agriculture francilienne, avec des rendements qui sont au-delà de 80 quintaux à l'hectare en matière de blé aujourd'hui, donc qui sont véritablement parmi les meilleurs rendements que l'on trouve. Et puis, malgré tout, je le signale tout de suite, mode de faire valoir, bon, on est bien sûr en fermage, hein. Ce sont ces fameux grands fermiers d'Île-de-France, bien connus, ces grandes familles de fermiers d'Île-de-France. Aujourd'hui, le fermage représente en Île-de-France pratiquement plus de 80% de la SAU, donc on a là aussi une généralisation, avec néanmoins, et on le voit ici, on y reviendra tout à l'heure, 5% de baux précaires, qui est une des données classiques de l'Île-de-France, avec l'urbanisation notamment, un grand nombre, que ce soit d'ailleurs de grands fermiers en grande culture ou bien de maraîchers, on va le voir, ont toute une série de baux précaires, des baux précaires notamment avec les grands organismes d'aménagement de l'Île-de-France qui, à un certain moment, ont gelé ces terres pour les urbaniser. Ils sont en attente d'urbanisation, et quel est le meilleur moyen, en quelque sorte, d'attendre? C'est de les louer à des agriculteurs, et on a toute une série de ces grands fermiers qui sont aujourd'hui des locataires de l'agence foncière technique de la région francilienne. On aurait notamment toute la zone autour de Roissy qui est aujourd'hui de cette manière. Alors comment en est-on arrivé là, si je puis dire? Et je reviendrai sur rapidement sur les évolutions depuis les années 50, même si je ne m'attarderai pas. trop de textes, je reconnais, mais bon, tant pis, voilà, on a ses habitudes, voilà. Donc c'est vrai que si je prends l'agriculture francilienne ou les agricultures franciliennes dans les années 50, on a une image qu'on aurait pratiquement dans la quasi-totalité de la France d'une agriculture avec une très grande variété de systèmes, avec deux logiques, des cultures sur plateau, et déjà malgré tout la domination des terres labourables, la domination des céréales, mais deux grands systèmes. Je crois que ces deux grands systèmes aujourd'hui sont fondus l'un dans l'autre, et c'est ce qui est intéressant à mon sens, alors que véritablement dans les années 50, on oppose un système Briard et un système Beauceron. Le système Briard est encore un système où l'élevage est important, qu'il soit bovin ou qu'il soit ovin, alors que le système Beauceron est déjà un système qui a quasiment fait qui a quasiment fait disparaître l'élevage. À côté de cela, on a les fameux restes des ceintures maraîchères dont on a souvent lu qu'on a souvent lu selon le modèle de Van Thunen, hein, je vous rappelle ici sa formulation relativement simple. On voit très nettement comment la rente de localisation diminue au fur et à mesure que l'on s'est s'écarte de la ville, et on a ainsi des cultures qui vont se succéder sur des auréoles. Bon, l'Île-de-France n'a jamais connu des auréoles bien marquées, tout simplement parce qu'on est dans une cuvette, hein, donc avoir des auréoles quand on est dans une cuvette topographique, c'est relativement difficile. Mais si je reprends là une carte de Michel Fliponneau, on voit très nettement cette Île-de-France, on est là. La carte est ancienne, donc fin milieu du 19e, on voit très nettement combien on avait une présence très forte de toutes ces cultures maraîchères et fruitières, avec notamment le poids des versants de vallée, puisque plutôt qu'une couronne, on était véritablement dans ces versants de vallée. Si je prends une carte des années 50, on voit ce qui est en rouge, c'est la tache urbaine. Les cartes de Michel Fliponneau, on en aurait beaucoup à dire aujourd'hui parce qu'on ne ferait absolument pas plus ce type de représentation, mais je trouve que c'est intéressant de les voir telles quelles parce qu'elles nous donnent à voir là aussi une géographie d'une certaine époque, hein, et c'est intéressant justement, hein, voilà. Et donc on voit déjà en 1950 combien cette présence maraîchère est devenue modeste d'un certain point de vue, limitée notamment dans les zones inondables, ces zones inondables qui restent aujourd'hui des lieux majeurs d'agriculture et qui resteront peut-être à un certain moment les seuls, puisqu'au final, ces lieux inondables, ce sont clairement ceux que l'on ne peut pas urbaniser. Donc, ceinture maraîchère, je l'évoquais, avec une régression hein, dès la fin du 19e siècle. Hein, on a coutume de dire que cette zone maraîchère atteint son apogée en 1850, et elle va ensuite connaître une régression de plus en plus forte jusque dans les années 50. Un point commun à cette agriculture dans les années 60, c'est une agriculture chargée d'hommes, et ça je pense que c'est un élément majeur. Et il est clair que, par ce biais, elle est en quête de productivité. Chargée d'hommes, 3 travailleurs à l'hectare en exploitation spécialisée, mais on retrouve à peu près les mêmes ratios en système Briard. Je vous ai dit tout à l'heure, on est sur 2 hommes aujourd'hui pour 400 hectares, donc on voit très nettement le changement. Et il est clair que la stratégie des exploitations, et on pourrait lire la révolution productiviste par ce prisme, c'est la substitution de la main-d'œuvre par le capital. On le voit de manière tout à fait claire en Île-de-France. Donc le deuxième temps de cette affirmation, cette entrée en productivisme, c'est la généralisation donc du système grande culture et céréalier. Bon, là, je pense que les pages qu'a écrites Jean-Paul Charvet, je me contente de les évoquer, mais on est là véritablement dans ce modèle céréalier qui s'impose petit à petit, qui signifie bien sûr une simplification du système d'exploitation et une spécialisation uniquement vers la grande culture. On le voit, en 88, 60% des exploitations sont dans les deux OTEX, grande culture et céréales, donc on a pratiquement abandonné le reste. Les terres labourables représentent 95% de la SAU et les céréales à elles seules, 70%. On voit donc là très clairement cette Île-de-France entièrement convertie à la céréaliculture ou à la grande culture. Ce qui a le plus régressé, c'est bien sûr l'élevage. Et vous avez ici notamment sur les ronds et les carrés le nombre d'exploitations et les superficies fourragères. Entre 70 et 88, je pense qu'on voit cette simplification tout à fait extraordinaire. On pourrait lire également la simplification des industries agroalimentaires avec la disparition des laiteries. Et bon, la dernière carte, même si vous ne voyez peut-être pas trop bien, mais on ne peut plus aujourd'hui parler de bassin de production laitier au niveau de l'Île-de-France. On est dans une production qui va abonder les bassins de production aux alentours, que ce soit le bassin normand, le bassin de Lyon. On n'a plus de structure industrielles qui permettent en quelque sorte d'avoir l'équivalent d'un bassin laitier sur l'Île-de-France, alors que l'on a très clairement un bassin céréalier digne de ce nom avec des industries agroalimentaires très fortes. Pendant toute cette période, les cultures spécialisées vont connaître une très forte crise. Je vous ai donné ici deux chiffres. Les superficies légumières régressent de 80% entre 55 et 88. Et les vergers également, même si pour les vergers, ce sera un petit peu plus tard, ce sera véritablement après 70 que les vergers vont connaître une très forte régression. Là aussi, deux petites cartes qui vous le montrent. La première, ce sont les superficies des légumes, et on voit l'éloignement progressif de ces superficies de légumes qui ne sont plus à proximité immédiate de la ville, mais qui ont tendance à s'éloigner. Et puis, on voit ici la disparition des vergers. Tout ce qui est en aplats de couleur, ce sont des disparitions. Hein. Les progressions, ce ne sont que les petits points. On le voit là aussi, ce phénomène d'éloignement, en quelque sorte, de ces ceintures maraîchères et fruitières, comme on les a appelées. Tout cela revient à rappeler la formule de Mandras sur la fin des paysans franciliens. Avec une très forte concentration des exploitations. Il est clair que dès 1988, plus de 60% de la SAU est dominée par des exploitations qui ont plus de 100 hectares, et le seuil de concentration en 88 est à 100 hectares, ce qui est un des seuils les plus élevés, qui est le seuil le plus élevé de France. Bon, je ne parle pas du parcellaire, et également de cette impression d'une campagne sans agriculteur, qui est sans aucun doute un des éléments majeurs quand on se promène aujourd'hui sur ces campagnes franciliennes. Cette agriculture, telle qu'elle a évolué, reste, ou demeure, et justement parce qu'elle a évolué de cette manière, offre un produit brut standard très élevé. Bon, ici, ce sont les cartes à la commune, donc c'est peut-être pas les meilleures, parce qu'il est clair que là où, à la limite, le produit brut standard est très élevé, c'est là où il y a le plus d'exploitation, hein, vous le repérez par rapport à la carte de tout à l'heure, mais on voit malgré tout une carte de PBS communal qui montre les PBS parmi les plus élevés de France à partir de cette carte, à partir de ces données, ce qui signifie bien le poids ou la puissance de cette agriculture. On peut le mesurer d'une autre manière en regardant l'évolution des exploitations de 2000 à 2010 selon leur PBS. Donc vous avez sur la plus grande, les grandes exploitations, donc celles qui ont plus de 100 000 euros de PBS, les moyennes exploitations entre 25 000 et 100 000 euros, et les plus petites, moins de 25 000 euros. Je pense que l'on voit très clairement, bon, c'est une image classique, hein, on la retrouve sur les autres agricultures, mais elle est très marquée ici, avec, on le voit, une minoration notamment des moyennes exploitations. On pourra nuancer tout à l'heure sur les petites, mais c'est là où sans doute le RGA ne nous permet pas d'aller assez loin. Et puis, cette puissance tout à fait caractéristique, caractéristiques que de ces grandes exploitations de PBS, qui ne rejoignent pas toujours les plus grandes exploitations en superficie, mais depuis 2000, le seuil de concentration des exploitations franciliennes, ce n'est plus 100 hectares, mais c'est 200 hectares au niveau des céréalières. Donc on voit très clairement combien ce seuil de concentration a grandi et représente une certaine forme d'efficacité, sur lequel on pourrait revenir, il y aurait beaucoup à dire, mais une certaine forme d'efficacité de cette agriculture. Aujourd'hui, donc, ces grandes exploitations, selon les PBS, représentent 89% de la production. Donc, on voit une autre lecture de la concentration. Les petites, 1% et 10% le reste. J'insiste tout de suite là-dessus parce que c'est très intéressant et notamment la région s'est emparée de ces chiffres, on va le voir pourquoi, puisque parmi les 10 plus grandes exploitations en PBS d'Île-de-France, 8 sont horticoles, une est en élevage, c'est pratiquement, il n'y en a plus que 5 ou 6, donc il y en a une qui est une des plus grandes fermes d'élevage de France, et une est spécialisée en grande culture. Alors évidemment, on est sur le PBS par exploitation. Je serais sur le PBS par homme, je n'aurais pas la même image, mais on voit malgré tout que cette lecture de la puissance économique, notamment de l'horticulture, par ce prisme, a pu être saisie par la région pour montrer combien on pourrait, pourquoi pas, se diriger vers une agriculture de proximité ressuscitée qui, par ce biais, nourrit, alors je ne sais pas si elle nourrit son homme, peut-être pas, mais elle nourrit son exploitation, si je puis dire. Alors, dernière chose, justement, les petites exploitations se maintiennent en grande partie par leur activité commerciale, et j'insiste là-dessus, c'est vrai que la notion de PBS telle qu'elle est utilisée par le RGA aujourd'hui ne calcule pas toute une série de prestations de vente de détail, notamment la valorisation au prix du détail des produits n'est pas prise en compte, et il est clair que l'on a donc une image du PBS de ces petites exploitations qui serait à voir. Donc, dualité que l'on voit ici. Et ce que je voudrais analyser dans un deuxième temps, est-ce que cette dualité se recompose ou est-ce qu'elle est en train de se recomposer? Parce que malgré tout, je crois que vous l'avez bien vu, certes on peut dire que 8 exploitations horticoles sont parmi les plus grandes, il n'empêche qu'aujourd'hui les exploitations horticoles sont très peu nombreuses, on en compte grosso modo 600, donc on voit malgré tout cette rétraction de ces exploitations horticoles. Donc, une dualité qui se recompose, je pose la question, si je regarde les évolutions depuis 2000, on constate que malgré tout, les mêmes tendances se lisent. On voit très clairement que ce sont toujours les exploitations spécialisées qui souffrent le plus, qui ont connu une nouvelle régression entre 2000 et 2010. On le voit là, que ce soit pour les fleurs, l'horticulture diverse, l'élevage herbivore, et bon, un petit schéma tout simple, il est clair que si je fais un petit schéma par exploitation, les grandes cultures représentent 76% des exploitations, on a 25% d'autres, mais vous voyez notamment que l'horticulture, puisque je vais un peu me focaliser là-dessus, c'est-à-dire le maraîchage, verger, etc., ne représente que 9% des exploitations, donc on voit très nettement la faiblesse de ce secteur et la difficulté d'aller vers une agriculture de proximité comme la région pourrait l'envisager. Alors, il est clair que si je regarde le produit brut standard, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, ces exploitations horticoles représentent 15% du produit brut standard. Donc, on voit bien là ce que peut apporter en plus cette horticulture. Même chose si je le regarde en termes de main-d'œuvre, il est clair que cette agriculture spéciale ou ces agricultures spéciales restent plus chargés d'hommes, si je puis dire, que par le passé. Dualité qui se recompose, malgré tout, un certain nombre d'éléments peuvent amener non pas à aller totalement dans ce sens, mais continue d'apporter des éléments dans ce sens. Ici, je suis par contre sur le produit brut standard par hectare, et on retrouve ce que les suivants du modèle de Von Thunen, que ce soit Sinclair ou Bryant, ont travaillé dans les années 80. Il est très clair qu'une des manières de résister, c'est bien sûr d'avoir une agriculture à très forte productivité. Et la carte nous montre que toujours, qu'encore aujourd'hui, le produit brut standard par hectare est nettement plus élevé au contact immédiat de l'agglomération, voire dans la zone urbaine. On retrouve cette image classique autour de la zone urbaine. Soit on est dans une zone de friche, à la limite, en attente d'urbanisation, soit s'il y a maintien de l'agriculture, cette agriculture nécessite en quelque sorte la recherche d'une productivité toujours plus forte. On peut avoir l'impression qu'il y a une certaine forme de recomposition. Néanmoins, quand je regarde les chiffres de la vente directe, hein, je vais alterner le chaud et le froid d'un certain point de vue en disant il y a un peu de recomposition, mais il n'y en a pas tant que ça. Quand je regarde les chiffres de la vente directe, 18% des exploitations sont en vente directe au dernier recensement. C'est moins qu'en 2000, où il y en avait 20%. Enfin, c'est presque la même chose, mais il n'y a pas eu en quelque sorte d'effet escompté comme on l'imagine. Je vous ai ici indiqué ce qui est vendu directement aux consommateurs, mais on voit très clairement qu'il y a des difficultés certaines à aller vers cette mutation, même si il est clair que l'on va retrouver en Île-de-France les mêmes phénomènes que l'on voit ailleurs, les cueillettes à la ferme, les paniers, les marchés forains, le carré des producteurs, etc., avec notamment une progression des AMAP tout à fait extraordinaire. La première AMAP naît en Île-de-France un peu plus tard qu'ailleurs, octobre 2003, les premières sont plutôt de 2001, mais on voit notamment en 2011 que l'on en est aujourd'hui à 300 AMAP, mais on est aujourd'hui sur un plateau. On est aujourd'hui sur un plateau avec, d'ailleurs un petit peu comme partout, enfin il me semble, hein, je travaille un petit peu sur Rhône-Alpes, on est exactement sur un plateau parce que on a un turnover extraordinairement rapide des consommateurs, on a d'autres modes de commercialisation panier qui sont moins contraignantes et qui, d'un certain point de vue, posent moins de problèmes. La carte des AMAP ici, hein, vous le voyez, je crois qu'on retrouve à peu près ce que l'on trouve partout. C'est bien sûr Paris-Centre qu'il y en a le plus. Les départements limitrophes, un petit peu moins. On est bien dans une logique, en quelque sorte, très urbaine, hein, mais on pourrait le dire ailleurs. Donc, on le voit, un bilan assez mitigé sur ces transformations, avec très clairement des résistances, hein, je crois qu'on peut le dire comme cela, des résistances, mais malgré tout, des éléments qui semblent indiquer que l'on évolue, en Île-de-France, on emploie volontiers ce terme, vers un post-productivisme de proximité. Le terme est peut-être un peu fort, mais signifie bien, je pense, ce que cela peut vouloir dire. Donc je voudrais, dans un troisième temps, qui sera la fin de l'exposé, travailler sur la part de la ville dans ses évolutions et comment, en quelque sorte, la ville, c'est-à-dire Paris, mais l'agglomération francilienne, joue dans ses évolutions. Avec cette notion, est-ce que l'on s'éloigne des logiques spatiales de séparation qui ont marqué, en quelque sorte, le développement de la ville et de l'agriculture? Est-ce qu'on va vers des reconnexions? Et est-ce que la proximité urbaine redevient un atout? Alors, je n'évoquerai pas ou très rapidement les données générales. Hein, c'est pas là-dessus que je vais m'appesantir, parce que ça, c'est bien connu de vous, la législation européenne, la législation nationale. Je vais plutôt m'axer sur ce que la région et sur ce que la ville ou ce que les villes portent aujourd'hui en Île-de-France et tentent en quelque sorte de transformer. Alors, il est clair que l'agriculture francilienne est aujourd'hui totalement périurbaine. Vous avez ici la limite de l'aire urbaine francilienne. On voit très clairement que cette aire urbaine francilienne saute allègrement les limites de l'Île-de-France et s'étend sur l'Eure, l'Eure-et-Loire, l'Yonne, l'Oise, etc. Bon, ça pourrait nous donner des idées pour les changements de région, mais j'ai pas l'impression que ça a été beaucoup pris en compte. Donc on est là sur une aire urbaine particulièrement vaste, et vous le voyez, on voit ces portions agricoles qui existent. Hein. J'ai reporté ici le nom des petits pays agricoles classiques. On les voit très clairement, en sachant que tout ce qui est en très clair, ce sont les communes rurales de l'aire urbaine. Donc l'essentiel des communes de l'aire urbaine, enfin les périurbaines, sont encore des communes rurales. On a toujours un petit peu du mal à l'imaginer, mais la plus petite commune du Vexin ne fait que 49 habitants. Hein, donc ça nous donne une image de ce que peut être, malgré tout, certaines de ces communes rurales. Alors, il est clair que cette inclusion dans l'aire urbaine a un effet immédiat, qui est celle de la concurrence foncière. Donc, quelques cartes pour vous montrer cette concurrence foncière. Ici, c'est la consommation des terres agricoles entre 82 et 99. On voit très clairement que cette consommation foncière, on la trouve partout. Elle est bien sûr très forte dans ce que l'on appelle la ceinture verte, hein, ce qui est marqué en jaune, avec des régressions communales qui peuvent aller 1200 hectares depuis cette période. Donc il est clair que l'on a là une agriculture sur la défensive, et on peut concevoir que la seule manière, c'était justement cette recherche de productivité que j'évoquais tout à l'heure. Si je regarde la période plus contemporaine, donc entre 82 et 2008, on voit ce qui est rouge très foncé. On voit que l'urbanisation se poursuit avec une urbanisation très explosée, forme de mitage malgré tout, qui montre très clairement que la concurrence foncière ne se lie plus seulement sur la couronne, sur la ceinture verte, mais elle se lie également dans la ceinture rurale, avec des phénomènes de hachage du parcellaire, de difficultés de circulation, etc., etc. Donc ça, c'est un des premiers éléments qui est le soubassement d'une nouvelle politique ou d'une éventuelle nouvelle politique régionale. Deuxième élément, c'est la prise en compte de l'absence actuelle de connexion entre l'agriculture francilienne et les consommateurs franciliens. Donc ce sont là des taux de couverture pour l'IDF, pour l'Île-de-France qui a été calculé, ce ne sont pas des taux de couverture réels, hein, entendons-nous bien, hein. On est sur des taux, des projections, et on voit que certes, au niveau du blé, bah oui, le taux de couverture, il est largement supérieur, mais au final, l'essentiel du blé n'est pas utilisé sur place, puisque l'essentiel va à Rouen. Et on voit que pour le reste, les chiffres de production sont devenus particulièrement faibles. Si je prends le cas de l'élevage, c'est tout à fait particulier, enfin symptomatique, le lait. On n'aurait guère que pour certains légumes, je ne l'ai pas noté ici, on aurait les salades, avec notamment la plaine de Montesson, où là on arrive aussi à plus de 100%, à plus de 120%, mais c'est véritablement quelque chose de très très particulier. Donc, aspect foncier, aspect alimentaire, et on peut constater que le nouveau SDRIF, je l'ai dit en introduction, a pris en charge ces aspects. Une carte qui a été un élément du document de travail, tout à fait novateur, je le pense, puisqu'on a là une carte qui présente les pénétrantes agricoles dans la ville. Donc la fameuse inversion de regard, si vous voulez, hein, avec, on le voit, ces grandes flèches oranges qui représentent cette entrée de l'agriculture dans la ville et que l'on a souhaité, en quelque sorte, intégrer dans le SDRIF qui a été voté en 2013 après beaucoup de vicissitudes, puisque avec le Grand Paris, le SDRIF a été retardé au moins de pratiquement 3 ans. Alors, on n'a pas gardé en totalité ce document. Néanmoins, vous avez là le document final, et on voit malgré tout ces pénétrantes agricoles qui ont été maintenues et qui posent, on peut le dire comme cela, bon après, 2013, je ne peux pas savoir ce qui sera suivi des faits, hein, si je puis dire, mais qui pose en quelque sorte un nouveau geste de la région par rapport à son agriculture. Je l'ai dit tout à l'heure, le SDRIV de 2013 note l'enjeu alimentaire comme un enjeu fort. Notamment, un certain nombre d'espaces agricoles sont considérés comme des espaces tests pour aller vers des indicateurs de durabilité, si je puis dire, de cette région nouvelle, ou de cette région avec un aménagement rural et agricole et urbain mêlé. Pour ce faire, la région, vous avez ici un document qui nous... qui reprend... tout ce qui est à la disposition, en quelque sorte, des collectivités pour protéger l'agriculture. Ce qui est en jaune, c'est ce qui est spécifiquement périurbain, ce qui est spécifiquement, excusez-moi, francilien. Et donc, je l'ai noté en tant que tel, avec notamment l'acquisition et la veille foncière, la région a un système particulier qui est original, qui n'existe pour le moment nulle part ailleurs, les PRIF, je vais y revenir. On a au niveau de la protection conventionnelle la notion de programme agri-urbain. C'est également la seule région qui s'est engagée là-dedans. Et puis, le SDRIF qui est en effet, malgré tout, le seul schéma d'aménagement qui existe à cette échelle. Les autres régions ont de multiples SCOT, mais l'Île-de-France est la seule qui a un schéma d'aménagement à cette échelle. Donc j'insisterai notamment sur des actions foncières de la région. Et c'est peut-être ce qui est le plus nouveau aujourd'hui dans cette politique agricole qui est en train de se mettre en place. Alors, intervention foncière, en effet, la région Île-de-France s'est dotée dès 1976, au moment de la régionalisation. L'Île-de-France a été la région pionnière dans la régionalisation, avec la création donc d'un opérateur. Un opérateur que l'on a appelé l'Agence des espaces verts. Donc cette Agence des espaces verts est créée en 1976. Aujourd'hui, elle souhaiterait changer de nom parce que la notion d'espace vert n'est peut-être pas celle qu'elle souhaiterait véritablement. Mais cette Agence des espaces verts est chargée d'appliquer la politique régionale foncière. Pendant longtemps, cette politique régionale foncière a été une politique forestière. Et on peut véritablement dire que depuis 2000, c'est devenu une politique agricole. Donc l'outil de l'Agence des espaces verts, c'est le périmètre régional d'intervention foncière, ce que j'appelle donc le PRIF. Ce sont donc des périmètres que la région délimite après des études préalables et qu'elle considère comme absolument nécessaires de sauvegarder, qu'ils soient forestiers, qu'ils soient agricoles. Puisqu'il est nécessaire de les sauvegarder, la région est habilitée à intervenir et à acheter par le biais d'une préemption foncière, en sachant bien sûr que cette préemption sera le fait de la SAFER, puisque la SAFER, comme partout, reste le seul opérateur foncier susceptible d'intervenir. Donc en 2012, on avait 74 périmètres d'intervention foncière, qui recouvraient à peu près 40 000 hectares. La région était intervenue sur 15 000 hectares, et surtout, ce qui est nouveau, depuis 10 ans, la région a acheté 2000 hectares agricoles, ce qui bien sûr est relativement peu, hein, on est d'accord, mais qui, malgré tout, ce sont des chiffres importants qui ont permis pratiquement partout où il y a eu achat de stabiliser le marché et de faire descendre les prix du marché. C'est-à-dire qu'on est passé grosso modo de 20 euros le mètre carré à 3-4 euros le mètre carré, ce qui est réellement le prix du marché agricole, et qui montre bien, en quelque sorte, une certaine efficacité de ces PRIF. Alors, vous avez ici la carte des PRIF, donc ce sont tous les petits numéros. On voit qu'ils sont très localisés dans la ceinture verte, hein, on a toujours cette localisation, mais on les voit également très fortement localisés sur les zones à enjeu haut. Ils sont sur... toutes les rivières et les fleuves, hein, puisqu'on a là un intérêt en quelque sorte de la région. Alors juste quelques exemples de ces prifs. On est là sur le plateau de Saclay. Donc le plateau de Saclay qui est véritablement un enjeu fort, à la fois un enjeu métropolitain, puisque l'on a une opération d'intérêt national, hein, on est là sur ce fameux plateau, la Silicon Valley à la française, comme on le dit parfois, mais il est clair que l'on a aussi encore 3000 hectares de terres agricoles, avec des terres excessivement productives, des exploitations qui, a priori, ont des repreneurs, donc pourraient connaître un avenir. Donc la région a déposé, enfin, ou a délimité un PRIF. Donc on voit un petit peu comment ça fonctionne, ce PRIF qui enserre toutes les zones agricoles. Le jaune, ce sont les premières espaces acquis. Donc on voit qu'il ne s'agit pas de tout acquérir, parce qu'ils ne pourront pas. Hein. On est véritablement sur un choix de parcelles. Et puis la dernière opération a été sur la commune de Villiers-le-Bacle, avec une opération un petit peu complexe. Ce qui est en vert, ce qui est en bleu, c'est ce que la région a acquis. Ce qui est en violet, c'est une exploitation privée. En orange, c'est un achat communal. Donc en même temps, on a fait un remembrement aménagement communal, si je puis dire. Et puis en vert, c'est l'intervention d'une citoyenne, d'une association citoyenne foncière qui a acheté une partie de ces hectares. Donc on le voit pratiquement toujours, on a aujourd'hui cette double logique avec la région, et puis presque toujours une intervention citoyenne sur quelques hectares. Donc je vous donne un autre exemple, c'est le cas des Mureaux. On est là sur une grande exploitation de la ville de Paris, 250 hectares, qui a été mise en vente. La région s'est donc portée acquéreur, puisqu'on est en plus sur des champs captants, donc à la limite, l'enjeu est majeur. Et on a eu, donc là, on le voit, on est à Flins, les Mureaux, hein, je crois que vous voyez bien la carte, on a eu là, donc, préemption, achat par la région et installation de 3 nouveaux agriculteurs, notamment. Voilà. Bon, autre exemple, mais je passe parce qu'on n'a pas le temps de les développer trop. Donc, on a là des actions foncières, à mon sens, qui sont totalement nouvelles et qui montrent qui sont des signaux, en quelque sorte, de la région, en sachant que la région va installer prioritairement sur ses espaces acquis des maraîchers, c'est la première chose, des maraîchers en itinéraire biologique. Donc, en règle générale, on est sur un appel d'offres avec un certain nombre de candidats et on va avoir l'installation de ces maraîchers sur ces terres ou bien de l'élevage également depuis 3 ans, hein, c'est un phénomène un petit peu nouveau, de l'élevage depuis 3 ans, là aussi en itinéraire bio. Deuxième action de la région, action économique, avec une indemnité appelée de compensation urbaine. La région a calculé que les exploitations périurbaines avaient des pertes annexes liées aux dégradations, liées à des vols, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc il y a en quelque sorte une mesure qui était d'ailleurs dans la politique générale, hein, avec les CTE, mais qui a été transformée en mesure régionale. Et aujourd'hui, donc toute une série de communes ont le droit à cette mesure rurbaine. Et la région est en train d'élargir la mesure rurbaine à la totalité de la région. Donc, on reconnaît en quelque sorte la position périurbaine. Dernière chose, c'est le lieu de cette action. Je crois qu'on en a dit déjà un certain nombre de choses. C'est bien sûr surtout la ceinture verte, avec une procédure clé de la région, ce que la région appelle les programmes agri-urbains, qui ont été mis en place par la loi de 99 d'abord, mais repris surtout par la loi rurale de 2005. La région Île-de-France est pratiquement la seule à avoir exploré cette voie. On parle plutôt ailleurs de parcs urbains, on a un autre vocabulaire. Ici, ce sont ces programmes agri-urbains. La notion d'agri-urbain était véritablement centrale, en quelque sorte, pour la région. Donc ici, on a la carte de ces programmes agri-urbains. Tout ce qui est gris foncé, c'était les zones de préfiguration. Les premières hachures, ce sont les PAU, enfin les programmes agri-urbains de première vague. Et les petits pointillés, les programmes agri-urbains de deuxième vague. On est sur la vague de 2012. Donc on voit très clairement combien la ceinture verte, d'un certain point de vue, est privilégiée, hein, avec toujours le même discours, puisque c'était cette ceinture verte qui portait l'agriculture spécialisée d'Île-de-France. Les deuxièmes espaces, tout à l'heure, Philippe a parlé des leaders. L'Île-de-France, depuis une dizaine d'années, a le droit d'avoir des leaders, même si on n'est pas dans une région rurale, mais les possibilités sont données. Et on a également cette politique agri-urbaine sur ces trois programmes leaders qui existent, et actuellement tous les programmes agri-urbains sont en train de demander des leaders. Donc on voit ce lien entre à la fois la politique régionale et la politique européenne. Je terminerai là-dessus. Donc les territoires de l'agri-urbain, ou ces territoires tels que je les ai évoqués, qu'est-ce qui fait leur originalité? Ce sont ce qu'on pourrait appeler des territoires de projet, comme les parcs naturels, comme plein d'autres territoires de projet. Je crois que depuis les années 70, on a eu de cesse d'inventer des territoires de projet en France. Donc on est sur un type de territoire de projet. Et ce qui est original, c'est que dans ces territoires, l'agriculture est considérée comme le projet de ce territoire. Donc les programmes agri-urbains comprennent actuellement entre 2 et 10 communes, entre 15 et 150 000 habitants. Donc on voit bien qu'à 150 000 habitants, on est dans une unité quasiment urbaine, ou dans un ensemble quasiment urbain. Deuxième caractéristique, c'est les modes de gouvernance, tout à fait originaux de ces programmes, même s'ils ne sont pas encore totalement évidents. C'est ce que j'ai appelé une gouvernance partagée, avec la mise en place de collèges, comme on les appelle, un collège d'agriculteurs, un collège d'habitants citoyens consommateurs et un collège d'élus avec des réunions croisées pour aller en quelque sorte vers la gouvernance de ces territoires. Et puis, on est dans des territoires de projet. Donc on est exclusivement dans des engagements contractuels avec des contrats à géométrie variable entre ces différents acteurs. Donc on a toute une série de programmes. J'évoquerai juste celui-ci qui est sans aucun doute celui qui fonctionne le mieux. On est sur le triangle vert des villes maraîchères du Hurepoix, qui était véritablement une vieille région maraîchère. On a là, avec le fameux petit train qui apportait les légumes à Paris chaque matin. Donc on est sur une entité très ancienne. Ce triangle s'est mis en place comme programme agri-urbain en 2001, et on retrouve un modèle sur lequel se moulent actuellement tous les programmes, avec une association, une charte, un programme d'action. Donc pour conclure, j'ai envie de dire qu'on a peut-être un certain nombre d'évolutions, mais je le répète, des difficultés à les quantifier, notamment par le biais du recensement général de l'agriculture, qui n'accorde pas véritablement de place à ces nouvelles agricultures et à ces nouvelles manières de faire. Donc il y a nécessité de multiplier les enquêtes sur le terrain pour aller le voir. Des évolutions certaines, avec de nouveaux agriculteurs qui intègrent la ville dans leur plan d'exploitation, mais avec de fortes réticences. Je n'en ai pas parlé, mais je pense que ça pourrait être l'objet pratiquement d'une intervention à part entière, tellement les syndicats majoritaires sont hostiles à ces nouvelles formes d'agriculture. des évolutions certaines, avec aussi, je dirais, ce qui est peut-être nouveau, c'est cette place qu'accordent désormais les communautés de communes, les communautés d'agglos, à l'agriculture. Bon, ce serait le cas, par exemple, de Corbeil-Essonne, hein, qui est en train de faire son programme agri-urbain. On est là, véritablement, dans des unités urbaines d'importance, hein, qui matérialisent quelque chose de nouveau. Dernière chose, enfin, ce serait bien sûr la très forte implication de la région, notamment en matière foncière, qui est peut-être très clairement le signe le plus fort que peut donner la région, même s'il n'est pas suffisant. Hein, puisque si on continue, quand on continue d'interroger les agriculteurs, c'est quand même toujours le foncier qui les inquiète. Et puis, trois dernières remarques pour faire vite. Une première qui serait la question de comment envisager cette agriculture qui est désormais dans le projet urbain. Bon, d'ailleurs, c'est pour cela qu'on l'appelle agriculture urbaine, hein. On est clairement dans une agriculture qui est devenue urbaine puisqu'elle est dans le projet urbain. Mais on voit que les questions agricoles sont avant tout vues par le prisme alimentaire et non pas par le prisme agricole. Je pense que c'est quand même un des grands aspects, une des grosses différences. Et puis, une question, alors là aussi, qui n'apparaît pas du tout dans le RGA, mais que je trouve très importante quand on va sur le terrain, c'est la recherche des agriculteurs, aujourd'hui, d'aller vers une production que j'ai qualifiée d'intermédiaire entre proximité et filière longue, c'est-à-dire pas la filière longue, mais pas forcément la proximité, mais une filière intermédiaire, c'est-à-dire comment envisager ces filières qui pourraient alimenter en énergie une ville. On est déjà dans une filière plus longue que la proximité, si je puis dire, et pour le moment, on est véritablement à la recherche de manières pour développer ces filières intermédiaires. Je m'arrêterai là-dessus parce que je pense avoir déjà dépassé le temps. C'est toujours difficile.